Et c'est donc l'heure du journal avec vous, Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Pour les États-Unis, la capitale d'Israël ne sera plus Tel Aviv, mais Jérusalem. Donald Trump s'apprête à officialiser ce changement de cap, malgré la multiplication des mises en garde en provenance de l'autorité palestinienne, de l'Union européenne, de la Turquie ou encore du pape François. Emmanuel Macron est venu parler d'avenir en Algérie. Le chef de l'État souhaite un partenariat d'égal à égal pour, dit-il, construire un axe fort autour de la Méditerranée. La mort de Johnny, emportée par un cancer du poumon, les hommages affluent depuis le petit matin pour saluer notre rockstar national. Soyons humains, demande la Fondation Abbé Pierre. Elle s'indigne contre les équipements urbains conçus pour empêcher les personnes à la rue de venir s'abriter ou se reposer. Donald Trump s'apprête à reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Il s'agit d'une décision historique, d'un changement de ligne total de la part des États-Unis, mais rien ni personne ne semble en mesure de faire changer d'avis le président américain. Grégory Phillips, vous êtes en direct de Washington. Donald Trump doit s'exprimer dans une heure environ. Qu'est-ce qu'il va annoncer exactement ?
Alors écoutez, on n'est pas à l'abri d'une surprise avec le président américain, mais principalement deux choses. D'abord que les États-Unis vont reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Un responsable de la Maison-Blanche nous disait hier soir que les Américains souhaitaient simplement entériner une réalité du terrain, arguant que quasiment tous les ministères israéliens sont déjà installés dans la ville trois fois sainte. L'explication paraît un peu courte parce qu'avec cette décision, Trump va tout de même à l'encontre de 70 années de politique américaine dans la région. Et puis l'autre annonce, ça devrait être que Trump a demandé à son département d'État de commencer à préparer le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers Jérusalem, mais ça va être long, peut-être des années. Il faut notamment trouver un bâtiment susceptible d'accueillir et en toute sécurité un millier de diplomates, donc pas de transfert immédiat. Trump, enfin, devrait aussi dire qu'il ne souhaite pas toucher aux frontières ni à l'épineuse question de l'esplanade des mosquées, où là, le président américain devrait s'engager à respecter le statu quo.
Et pourquoi ces annonces aujourd'hui, précisément ?
Alors d'abord parce que Trump estime qu'une telle décision aurait dû être prise depuis très longtemps, c'est ce qu'il vient de dire à la Maison-Blanche lors de la réunion de son cabinet, et puis aussi parce que il veut tenir une promesse qu'il a faite à deux pans de son électorat, les groupes de pression pro-Israël ici aux États-Unis et puis aussi son électorat évangélique conservateur qui fait de Jérusalem un enjeu central pour qui la ville sainte doit être la capitale unie et indivisible d'Israël. Selon des responsables de la Maison-Blanche, le président américain enfin devrait répéter qu'il est déterminé à obtenir un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens, qu'il croit encore à une solution à deux États. Mais il est vrai, Aurélie, qu'avec cette reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne, il va devenir compliqué, très compliqué pour les États-Unis de se poser en tant que médiateur dans ce conflit.
Grégory Phillips, envoyé spécial permanent de France Culture à Washington. Ce matin, le pape François a fait part de sa préoccupation profonde, rappelant que Jérusalem est une ville unique, sacrée pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans, et réclamant le respect du statu quo. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir.
Et ça n'est qu'une réaction inquiète parmi beaucoup, beaucoup d'autres.
Oui, l'annonce que doit faire Donald Trump d'ici une petite heure maintenant, et reconnaissant Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, fait quasiment l'unanimité contre elle, même si les réactions sont parfois formulées avec diplomatie, tout comme le pape. Emmanuel Macron a fait part de sa préoccupation. La Chine a choisi, elle aussi, de se dire préoccupée, selon un communiqué de son ministère des Affaires étrangères. La Russie et la Grande-Bretagne, par la voix de son chef de la diplomatie, se sont exprimés dans les mêmes termes, préoccupation. Voilà pour les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. La Bolivie, membre non permanent, vient d'annoncer, elle, qu'elle demanderait une réunion d'urgence de ce Conseil de sécurité si le président américain confirmait bien vouloir transférer son ambassade à Jérusalem. Ailleurs, dans les pays arabes et plus largement les pays à majorité musulmane, on ne se prive pas pour dire beaucoup plus explicitement qu'on trouve l'annonce de Trump être une très, très, très mauvaise idée. Le Pakistan y est, je le cite, opposé sans équivoque. Quant au président iranien Hassan Rouhani, il a indiqué, je le cite aussi, que l'Iran ne tolérera pas une telle violation des lieux saints musulmans. Certains lieux de la vieille ville de Jérusalem, on le sait, sont considérés comme sacrés par les juifs, par les chrétiens ou par les musulmans. La Turquie, qui préside en ce moment l'organisation de la conférence islamique, a convoqué un sommet des dirigeants de cette instance pour le 13 décembre sur le sujet. Quant à la Ligue arabe, elle vient elle aussi d'annoncer une réunion extraordinaire de ses membres samedi prochain à la demande de la Jordanie et des Palestiniens. Enfin, et c'est peut-être un avant-goût de ce que pourrait déclencher effectivement cette annonce américaine, le Hamas appelle les Palestiniens à manifester vendredi en une nouvelle journée de la colère. Dans un communiqué il y a quelques jours, le mouvement islamiste parlait de raviver l'intifada au cas où une telle annonce américaine devait être faite.
Eric Biegala, Vladimir Poutine brigue un quatrième mandat. Le président russe a officialisé cet après-midi sa candidature à l'élection de mars 2018 et le président candidat a décidé de se montrer magnanime. Il annonce que la Russie ne boycottera pas les JO de 2018. Les athlètes russes ne sont autorisés à participer que sous drapeau neutre. Le CIO ayant décidé d'exclure la Russie pour avoir manipulé les contrôles antidopage lors des Jeux de Sochi en 2014. Carles Puigdemont reste en Belgique. Hier, le tribunal suprême espagnol a retiré le mandat d'arrêt international à l'encontre du président catalan destitué et de quatre de ses anciens ministres régionaux, eux aussi exilés en Belgique. Mais ils sont toujours recherchés en Espagne pour sédition, rébellion et détournement de fonds publics. La correspondance de Johanna Hostein à Bruxelles.
C'est tout sourire que les cinq membres de la Généralité de Catalogne se sont présentés devant la presse. Ils savourent leur victoire, ils sont heureux et ne le cachent pas. Pour Meritxell Serré, ancienne conseillère à l'agriculture, l'Espagne a tout simplement cédé à la pression internationale.
La justice espagnole, l'État espagnol et son gouvernement ont peur de la justice belge. On perd dès qu'il soit évident qu'il n'y a pas de base pour cette accusation.
Ils ont commencé par lever le mandat d'arrêt européen à notre encontre. Ils finiront par retirer l'article 155, a lancé Carles Puigdemont. Article qui a permis au Premier ministre espagnol de reprendre le contrôle de la Catalogne. Le président destitué a précisé que pour le moment, il resterait en Belgique pour mener sa campagne pour les élections régionales du 21 décembre.
Notre intention, lorsqu'on est arrivé ici, c'est de retourner le plus rapide possible à chez nous. Si les Catalans et les Catalanes nous élusent comme un député du Parlement, on a le devoir même d'envisager le retour. Mais est-ce que ça sera possible? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura un respect aux résultats électoraux? Il faut connaître la réponse avant de décider de retourner.
Demain, Carles Puigdemont est attendu à la grande manifestation organisée dans la capitale belge par les pro-indépendantistes, manifestation qui devrait rassembler quelques 30 000 personnes.
Il y a 10 mois, il avait qualifié la colonisation de l'Algérie de crime contre l'humanité. Emmanuel Macron était alors candidat à l'élection présidentielle. Il est de retour aujourd'hui en Algérie en tant que chef d'État et cette fois, plus question de revenir longuement sur le passé. Ce qui l'intéresse, c'est l'avenir. En témoigne son échange avec de jeunes Algériens. Le reportage de Bertrand Galichet à Alger.
En parcourant à pied la rue Larbi Ben Midi, du nom de l'un des fondateurs du FLN, Emmanuel Macron est accueilli par une foule compacte qui l'entoure dans une intense bousculade jusqu'à la place Abdelkader, avec des you-you, des acclamations et des selfies. Mais le président est aussi pris à partie sur la colonisation.
Mais monsieur le président, on aimerait que la France assume son passé colonial vis-à-vis de l'Algérie, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé. Durant...
Mais vous savez, ça fait longtemps qu'elle l'a assumé.
Mais c'est-à-dire qu'elle évite un petit peu le...
Mais qui évite quoi? Moi, j'évite quelque chose? J'évite de venir vous voir? J'évite de dire ce qui s'est passé? On a cette histoire entre nous.
Voilà,
mais moi, j'en suis pas prisonnier. Mais vous, vous avez quel âge?
J'ai 26 ans.
Mais vous avez jamais connu la colonisation? Qu'est-ce que vous nous venez m'embrouiller avec ça?
Pour enfoncer le clou au milieu d'un autre groupe, Emmanuel Macron exhorte les jeunes qui l'interpellent à regarder toutes les responsabilités.
Ce que vous vivez au quotidien, c'est pas le passé d'avant 62 qui l'a fait.
Est-ce qu'on déchire la page ou bien on tourne la page?
On ne peut pas déchirer une page parce qu'il y a des vies. Il ne faut pas être prisonnier de l'histoire.
Malgré la résilience de cette histoire-là, ce soir, dans une interview au site algérien TSA, il se dit prêt à ce que la France restitue les crânes d'insurgés algériens tués par l'armée française au 19e siècle et conservés à Paris au Musée de l'Homme.
Demain, Emmanuel Macron se rendra au Qatar pour discuter de la crise dans le Golfe et de la lutte antiterroriste. Il devrait également signer plusieurs contrats concernant notamment des avions de combat Rafale et des véhicules blindés du groupe Nexter. La semaine dernière, le chef de l'État était au Burkina Faso et il y faisait une promesse, celle de déclassifier les documents français relatifs à l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Les responsables et les circonstances de sa mort en 1987 n'ont toujours pas été établies. Certains ont évoqué la main de la France, ancienne puissance coloniale. Les avocats de sa famille réclamaient donc depuis longtemps la levée du secret défense en France. Mais au-delà de ce cas particulier, la question se pose pour tous les autres documents classifiés. Un collectif s'est justement constitué aujourd'hui à Paris, Valérie Crova, il réclame une réforme du secret défense.
Ils étaient sept à représenter certaines des plus grandes affaires couvertes par le secret défense. Leur point commun est de vouloir remettre en question ce secret tel qu'il existe aujourd'hui, car, disent-ils, son application se fait au détriment de la manifestation de la vérité, notamment parce que le mécanisme de contrôle qui permet normalement d'accéder aux documents secret défense entrave bien souvent les enquêtes. Elisabeth Borrell est la veuve du juge Borrell, tué à Djibouti en 1995.
Le seul contrôle, c'est le comité consultatif du secret défense, une commission. Et cette commission, on lui donne un peu les documents qu'on veut dans chaque ministère. Tous les ministères ont des documents classifiés. Et je pense effectivement qu'il faut, à un moment ou à un autre, qu'il y ait une mise à plat. Il faut que le public sache comment sont considérées l'inégalité des victimes de ce secret défense, parce que en dehors de contrôle, il fait vraiment des victimes collatérales et vous en avez un certain nombre autour de la table.
S'il y a bien un cas emblématique de ce que peut être une affaire où le secret défense empêche la vérité d'éclater, c'est l'affaire Ben Barka, Bachir, le fils de Mehdi Ben Barka, cet opposant marocain enlevé à Paris en 1965, a beau remonter le temps et les présidents qui se sont succédés, personne n'a permis de faire avancer l'enquête sur la mort de son père, même si François Hollande a fait naître un espoir qui s'est rapidement envolé.
À la fin du mandat de François Hollande, il y a un effet d'annonce sur 89 documents qui auraient été déclassifiés il y a quelques mois. On s'est rendu compte que ces documents avaient déjà tous été déclassifiés auparavant, étaient tous présents dans le dossier, pour certains depuis 1966. Il y a des effets d'annonce, mais il n'y a aucun effet positif. En fin de compte, la notion de défense est un outil aux mains des politiques pour bloquer l'action de la justice au détriment des victimes.
C'est au nom de la raison d'État que le secret défense s'impose à ceux qui recherchent la vérité, que ce soit des magistrats ou des proches, comme le collectif des amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, tous les deux assassinés au Mali en 2013 alors qu'ils étaient en reportage pour RFI. Daniel Gonneau fait partie de ce collectif.
Il semblerait que sur les 175 documents qui ont été demandés par le juge Trévidic en charge de l'affaire initialement, seuls 100 documents ont été déclassifiés. Et lorsque ceux-ci ont été soumis aux parties civiles, il s'avère que la quasi-totalité des documents a été caviardée, donc ils sont totalement inutilisables.
Alors pour éviter que les documents ne soient censurés, il suffirait de créer une juridiction indépendante où l'État ne serait plus à la fois juge et partie, ce qui permettrait aux victimes d'accéder plus facilement au dossier. C'est ce qu'explique Elisabeth Borel.
Moi, je voudrais un juge qui ait accès à l'ensemble des documents et qui ne dépende pas du ministre pour savoir ce qu'il y a concernant un dossier. Il est quand même incroyable qu'un juge d'instruction qui est censé diriger une enquête a moins de connaissances que les officiers de la DGSE qu'il dirige normalement, puisque eux sont habilités secret défense et peuvent avoir accès à tous les documents.
L'État a un pouvoir discrétionnaire digne de l'ancien régime, s'insurge un membre d'un comité de soutien. Avant l'organisation d'un colloque au printemps, les membres du collectif Secret Défense vont demander à être reçus par Emmanuel Macron.
Valérie Crova. Des fans en larmes se sont rassemblés près de son domicile à Marne-la-Coquette pour partager leur peine. Ils ont l'impression d'avoir perdu quelqu'un de leur famille. Johnny Hallyday a succombé cette nuit au cancer du poumon contre lequel il se battait depuis des mois. Le chanteur qui avait commencé sa carrière à 16 ans remplissait encore les stades un demi-siècle plus tard. S'il avait autant de fans, de gens qui allaient le voir, estime le chanteur Miossec, c'est parce qu'il était d'une grande générosité et personne ne lui arrivait à la cheville sur scène. Julien Clerc écrit à Johnny « Jamais je n'oublierai la puissance et la générosité de ta voix, nos duos m'ont marqué pour la vie. » Et Eddie Mitchell confie « J'ai perdu plus qu'un ami, j'ai perdu mon frère. » Mais Lynn Renault l'assure, Johnny est éternel.
Johnny ne mourra pas. Johnny va rester, ça restera, parce que c'est trop fort. Le lien créé entre Johnny et la nation et de toutes les générations, et c'est quelque chose qui n'a jamais existé en France. Il n'y a jamais eu en France, avant Johnny Hallyday, une popularité comme celle de Johnny. Jamais, jamais.
La chanteuse et actrice Lynn Renault, marraine de Johnny Hallyday qu'elle avait lancée dans le monde du spectacle. Il y aura une rue Johnny Hallyday à Nice, c'est ce qu'a promis ce matin le maire de la ville, Christian Estrosi. Et pour le journaliste et critique musical Philippe Manœuvre, il faudrait donner à Johnny des funérailles nationales ou créer un Johnny Hallyday Day. Philippe Manœuvre, très ému en apprenant la mort de l'artiste.
Il s'est battu pour moderniser la musique en France, pour mettre la France à la vitesse des pays anglo-saxons. Il s'est bagarré, il a imposé le rock'n'roll et ensuite il a décidé d'emprunter toutes les modes rock, que ce soit le glam, le hard rock. Et à la fin, c'était devenu un immense rocker, qu'on appelle un classique rocker, avec l'équipe de Yarol Poupeau. Ils nous ont régalé les 10 dernières années de tournées absolument fabuleuses. C'était le rocker de la démesure en même temps. Hein. C'est lui qui a été le premier sous la Tour Eiffel, qui a décidé d'emporter le rock là où il n'était jamais allé. Il a fait des choses formidables, ce Johnny Hallyday. C'était un sacré bonhomme. Et je suis très, très fier de l'avoir connu et d'avoir d'avoir été de ses amis.
C'est un chanteur abandonné qui a vécu sans se retourner. Sûr que le blues s'est inventé pour lui cette nuit, parce qu'il a su s'abandonner à ceux qui ont voulu l'aimer. Il a donné ce qu'il avait. Mais lui, il se demande qui il est.
Johnny Hallyday, loin d'être un chanteur abandonné aujourd'hui. Le rocker a en revanche parfois essuyé des moqueries. C'est vrai qu'il lui est arrivé de faire des bourdes et des fautes de français. Et les guignols de l'info sur Canal+ l'ont joyeusement caricaturé avec une marionnette un peu bébête. Johnny Hallyday n'était pas un intellectuel. Pourtant, Antoine Maret, à plusieurs reprises dans sa carrière, il a fasciné le milieu intellectuel.
Effectivement, il y a eu des rapprochements assez inattendus entre le chanteur qui incarnait une certaine virilité, un charisme incontestable, capable de soulever des foules, et des artistes ou des intellectuels plus élitistes, en particulier grâce au cinéma. L'illustration la plus flagrante, c'est la rencontre avec Jean-Luc Godard. Il lui confie un rôle dans son film Détective en 85. Johnny Hallyday interprète un organisateur de combat de boxe englué dans une enquête. Sur ce tournage, il croise Laurent Terzieff, Jean-Pierre Léaud, Claude Brasseur, Alain Cuny, mais aussi sa deuxième épouse Nathalie Baye, la rencontre de deux mondes. Il se met à plaire à un public plus intellectuel, plus cinéphile, mais ses fans, à lui, ont parfois du mal à suivre. Autre interaction singulière, celle avec le comédien Fabrice Luchini. Dans le long métrage Jean-Philippe, Johnny Hallyday y joue Jean-Philippe Smet, son double anonyme qui a loupé son rendez-vous avec la célébrité. Là encore, cette association improbable Luchini-Hallyday fonctionne. Johnny Hallyday avait dit de lui-même, les intellos et moi, c'est une drôle d'histoire qui se répète avec les années. En fait, il faudra attendre 85 et le film avec Godard, la collaboration avec Michel Berger et mon histoire d'amour avec Nathalie Baye pour que l'on me trouve moins creux. Mais le chanteur avait ajouté « Je n'ai jamais changé, je n'ai jamais eu aucune prétention intellectuelle, je ne suis qu'un rocker, un simple rocker. » Un simple rocker qui aura compté parmi ses admiratrices Françoise Giroud, Françoise Sagan ou encore Marguerite Duras. Celle-ci a malgré tout écrit à propos de Johnny Hallyday lors d'une interview. Il ne me répond encore pas, ne veut-il pas répondre ou ne comprend-il pas ce que je veux dire? J'abandonne, il ne comprend pas ce que je veux dire, il ne peut pas comprendre. Des années plus tard, Johnny lui répond dans une autobiographie. Elle croit que je ne comprends pas alors qu'en réalité, je n'ai rien à lui dire. Aucun rocker de l'époque n'aurait eu quelque chose à dire à cette dame.
Antoine Maret, et France Culture prolongera son hommage à Johnny vendredi avec un 18-20h très rock en direct et en public du bar Le Bel Air à Radio France. Quant à l'académicien Jean d'Ormesson dont on a appris la mort hier, il aura droit à un hommage national vendredi à l'Hôtel des Invalides présidé par Emmanuel Macron. Une personne qui vit à la rue n'est pas un animal nuisible. La Fondation Abbé Pierre et l'association Emmaüs Solidarité ont mené une action au petit matin pour alerter les citoyens sur la façon dont sont traitées les personnes sans domicile fixe. Leur cible du jour, les équipements urbains, bancs, abribus, conçus avec l'idée de décourager ceux qui seraient tentés de venir y dormir, Julia Siriex.
Rassemblement devant la façade d'un Crédit Lyonnais parisien. À 7h du matin, une vingtaine de bénévoles recouvrent d'affiches la façade au rebord de fenêtres garnies de pics en fer. Impossible pour un SDF de s'y allonger pour prendre du repos. C'est d'ailleurs la silhouette d'un homme étendu qui est représentée sur les affiches, accompagnée de ces mots « Au lieu d'empêcher les SDF de dormir ici, offrons-leur un logement décent ailleurs ». Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre.
Les personnes, on va les repousser un petit peu plus loin. On va les rendre invisibles, comme si c'était la solution au problème. Ça signifie que finalement, on n'a pas su enrayer la pire des exclusions, celle de ne pas avoir de toit, celle de se retrouver à la rue. L'abbé Pierre nous disait, il faut pas faire la guerre aux pauvres, il faut faire la guerre à la pauvreté.
Selon les chiffres de l'INSEE, environ 143 000 personnes vivraient aujourd'hui dans la rue en France. On estime à 500 le nombre de décès parmi elles chaque année. Et en plus, elles meurent jeunes, en moyenne à 49 ans. Nicolas Clément, président du collectif Les Morts dans la Rue.
Ça veut dire que quelqu'un qui est à la rue perd 30 ans d'espérance de vie par rapport à quelqu'un d'ordinaire. Ce qui est intéressant, c'est quelqu'un qui a eu un parcours de rue mais qui est hébergé, réussit à monter son espérance de vie à 59 ans. Donc l'hébergement durable est un moyen de protéger les gens réellement.
Selon Emmaüs Solidarité, il manque environ 3000 places d'hébergement en centre social pour les personnes sans-abri, rien que dans la ville de Paris.
Et la campagne de la Fondation Abbé Pierre se prolonge sur les réseaux sociaux et sur le site soyonshumains.fr. Le temps sera perturbé demain du nord au nord-ouest, plutôt ensoleillé sinon. Au lever du jour, les gelées seront fréquentes sur l'est et le sud-ouest. L'après-midi, il fera 6 à 10 degrés sur l'est et le centre, 9 à 15 ailleurs. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.